C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir? The Cure?
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Ah, bonsoir.
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 C'est l'heure du Canu Info.
Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Au programme aujourd'hui des Canu Info, on parlera des militaires, ceux du Charles de Gaulle, puis des violences policières avec un premier sujet sur la mort d'un motard à Villeneuve-la-Garenne où la police ne serait pas étrangère, et les contrôles de confinement qui ont causé déjà la mort de 5 personnes rencontre avec les flics. On écoutera ensuite l'interview de Benoît, qui est intermittent du spectacle en Aveyron, qui revient sur le flou artistique qui entoure leur avenir. Également une petite brève sur le patronat qui plaide pour un moratoire sur les mesures environnementales. Avant de vous proposer une interview qui était prévue par l'équipe des Canu Info du lundi et qui, faute de place, vient se greffer au programme d'aujourd'hui. Donc c'est le témoignage d'un travailleur en usine d'agroalimentaire. Et puis la chronique de Laurent Delabouze qui nous parlera aujourd'hui de la mort de Sepúlveda et de Liliane Marchais, de la police à Béziers et de l'embrouille entre la Chine et la France. Nous reviendrons ensuite sur la grève des loyers qui se fait en ce moment en Espagne, avant de conclure par quelques brèves de frontières.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Allez, une brève d'abord qui est pas à proprement parler une info, parce que sans doute tout le monde est déjà au courant vu qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps. Disons que c'est plutôt juste une sorte de petite remise de pendule à l'heure. Vous savez, ce porte-avions, le Charles de Gaulle, où tout le monde, c'est-à-dire précisément 100% des militaires qui étaient dessus, a chopé le Covid. Bon, voilà que les militaires sont revenus et qu'ils sont pas contents. Alors, il y en a qui parlent de porter plainte, ils se racontent que les hiérarchies savaient qu'il y avait des cas et qu'ils ont pas voulu annuler la mission. Et voilà qu'on en entend qui disent « L'armée a joué avec nos vies ». Alors, mon gars, t'es militaire, tu te souviens? Ça veut dire que t'es censé être payé pour faire la guerre. L'armée joue avec ta vie, c'est juste la moindre des choses, c'est précisément ta fiche de poste. Quand tu t'es engagé, tu croyais sans doute que t'allais juste être payé à violer des enfants dans des camps de réfugiés en Centrafrique? Bon, alors, on pourrait se dire que si les militaires commencent à trouver que c'est pas cool de prendre des risques, ça pourrait être bon signe, ça pourrait être la fin de la guerre peut-être un jour. Sauf que malheureusement, tous ces gens ne veulent pas qu'on joue avec leur vie à eux. Mais par contre, il n'y a aucun indice qu'ils auraient le moindre problème à tuer les autres tant que c'est assez sécurisé pour eux. Donc prendre un avion, aller bombarder des gens qui ont juste des lance-pierres pour se défendre, pas de souci. Risquer de choper un virus, ça c'est vraiment, vraiment trop injuste.
Canu Info. Du mercredi.
Samedi soir, à Villeneuve-la-Garenne, en banlieue parisienne, un homme à moto est gravement blessé à la jambe, à la suite d'un accident de voiture impliquant la police. Alors qu'il avançait en moto, il a percuté la portière d'une voiture de police banalisée, elle à l'arrêt. Les témoins sur place affirment qu'ils ont vu la voiture de police attendre la moto et ouvrir délibérément la porte au moment de son passage. La communication de la police dans les médias, évidemment, est tout autre et elle présente la victime comme un multirécidiviste et l'événement comme un accident, avec une version des faits qui reste floue et changeante entre les deux communiqués de la préfecture et les sources policières de différents médias. L'avocat du motard blessé a déposé une plainte pour violence en réunion avec armes et par personne dépositaire de l'autorité publique. Il a aussi demandé au parquet de Nanterre de saisir l'IGPN, et on sait qu'on peut leur faire confiance. Sur Twitter, un syndicat de police a déroulé les antécédents judiciaires du motard, en sous-entendant à peine qu'il ne méritait pas mieux. En réaction, mardi soir, une quatrième nuit de colère, à Villeneuve et ailleurs, banlieue parisienne et toulousaine, Lyon, Strasbourg, avec des tirs de feu d'artifice notamment, soldé de plusieurs interpellations. Donc on peut rappeler que c'est un accident qui souffle sur les braises de territoires particulièrement quadrillés par la police depuis le début du confinement, et où plusieurs personnes ont été gravement blessées ou sont mortes ces dernières semaines lors d'opérations de police. Le motard, toujours à l'hôpital, a été opéré de plusieurs fractures et lance un appel au calme.
L'histoire qu'on vient d'entendre est surtout notable en ceci que c'est la première fois du confinement que les violences policières dans les banlieues provoquent finalement une réaction. Mais une jambe cassée par les temps qui courent, c'est une étincelle. On l'a dit pas mal ici, on l'a entendu pas mal ailleurs. Depuis le début du confinement, les flics dans les quartiers n'ont plus aucune limite. Alors, il y a deux facteurs qui jouent essentiellement. Très peu de monde dans les rues, donc pas de témoins. Pas trop de gens qui filment avec leur téléphone, d'une part. D'autre part, une loi sur l'état d'urgence sanitaire qui est extrêmement floue et qui permet à chaque flic dans la rue, à l'occasion de chaque contrôle, de décider personnellement de ce qui est autorisé et de ce qui est interdit. Alors tout le monde a entendu ici ou là, soit entendu dans la presse, soit entendu raconter par quelqu'un qui connaît quelqu'un à qui un truc est arrivé, des histoires abracadabrantes. Ça, il y en a des tonnes et des tonnes. Alors certaines qui sont vraiment dégueulasses, comme celle du monsieur qui avait un certificat du Toubib et qui était allé accompagner l'agonie de son père qui était en train de mourir et qui a rencontré un flic sur le trottoir et le flic a trouvé que le certificat du Toubib ne suffisait pas et lui a fait faire demi-tour. D'autres histoires plus dérisoires, on pourrait dire, comme le gars qui a pris une amende parce que, alors muni de son autorisation dûment remplie, hein, il était descendu à l'épicerie en bas de chez lui pour acheter un pack de bière, et le flic a trouvé que la bière, c'était pas des courses de première nécessité. Bim, amende. Bon, des histoires comme ça, il y en a à la tonne. Mais là, j'ai trouvé un article sur le site Mars Actu qui a recensé d'autres histoires. C'est celle des histoires de gens qui, depuis le début du confinement, ont rencontré des flics et qui en ont été sérieusement blessés ou qui en sont morts. L'article nous avertit dès le départ. Depuis le 8 avril, 5 personnes ont été tuées par la police, 3 ont été blessées gravement et 7 ont porté plainte pour violence policière. Toutes ces histoires, ont un point commun, il n'y a aucun témoin, en dehors des flics impliqués dans la mort de ces personnes. En temps normal, même avec des témoins et des vidéos, la grande majorité des affaires de mort en lien avec la police se terminent par un non-lieu pour les flics. Sans preuve ni témoin à l'extérieur, il y a donc encore moins de chances que quiconque soit un jour condamné pour ces morts et que quiconque s'excuse. Alors, 5 morts donc. Le 8 avril à Béziers, celui-là on en a entendu parler quand même. Mohamed, 33 ans, est mort au commissariat de Béziers aux alentours de 23h30 le mercredi 8 avril, après avoir été interpellé par la police municipale pour non-respect du couvre-feu. Alors là, il n'a pas du tout été flingué. Hein. C'est plutôt une nouvelle fois, c'est une histoire de technique d'immobilisation. Au moins un des agents s'est assis sur le gars qui venait donc d'être arrêté, sur Mohamed qui venait d'être arrêté, il s'est assis sur lui, alors qu'il avait mis à plat ventre, monoté dans la voiture. Alors la presse, bien sûr, insiste dès le lendemain sur le caractère instable de l'homme, il serait un SDF. Bien sûr, ça va être difficilement prouvable, faute de témoins, mais la vérité a l'air simple, les flics l'ont tué par étouffement en s'asseyant sur lui. Je ne sais pas combien de gens la police française a déjà tué comme ça, mais c'est même plus vraiment original. Le 10 avril à Cambrai, les flics veulent arrêter 2 hommes qui, pris de panique, car dehors sans autorisation de sortie, prennent la fuite. Les flics les prennent en chasse. En pleine ligne droite, la voiture part en tonneau au milieu de la route. Pas de caméra, pas de témoin, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Mais faire un tonneau au milieu d'une ligne droite sans avec aucun obstacle, ça pour le coup, c'est pas banal. Le 10 avril à Angoulême, même scénario, Boris, 28 ans, intercepté par les flics, sûrement lui aussi sans autorisation de sortie, il prend la fuite et pris de panique, stoppe sa voiture au milieu d'un pont et saute dans l'eau, il n'en ressortira pas vivant, pas de témoin, on ne saura jamais précisément ce qui s'est passé. On peut se dire en tous les cas qu'un gars qui préfère se jeter dans l'eau plutôt que d'être contrôlé par les flics, il y a des chances qu'il ait déjà un sacré passif avec la police, ou que la police ait un sacré passif avec lui. Le 15 avril à Rouen, un homme, alors un bonhomme de 60 ans, décédé en garde à vue pendant la nuit du mardi au mercredi 15 avril, au commissariat de police de Rouen. Le sexagénaire a été placé en garde à vue la veille en fin de journée pour une conduite sous l'emprise de l'alcool. Vers 5 heures, alors qu'il était extrait de sa cellule pour être entendu, il fait un malaise. Malgré toutes les tentatives de réanimation des flics, il décède. Selon la police, les causes de sa mort ne sont pas encore connues. En tout cas, les flics sont les seuls témoins, ils n'ont pas trop de soucis à se faire. Et puis, à la Courneuve, le 15 avril, un jeune homme de 25 ans est aperçu par, des flics à cheval dans le parc de la Courneuve, qui est fermé pour cause de confinement. Alors il s'approche de lui et, selon eux, qui bien sûr, encore une fois, c'est les seuls témoins, tient un couteau à la main. Il aurait attaqué un cheval avec son couteau. Bon, suite à quoi les flics prennent la fuite et préviennent leurs potes à vélo, ils l'encerclent un peu plus loin, ils arrivent, ils se mettent autour de lui, et là l'individu se serait jeté sur eux. Les flics n'auraient pas eu d'autre choix que de lui tirer 5 balles, dont 3 en pleine tête. Bim ! Ils y vont pas de main morte. Alors comme d'habitude avec les flics, on comprend pas vraiment comment 3 personnes entraînées et armées avec des lacrymos, des tasers, chacun, ils finissent quand même par arriver à le descendre et à lui tirer 3 balles dans la tête. Donc tirer dans le genou ou dans le bras, ça semble pas du tout faire partie de leur formation. Bien sûr, les journaux ont titré sur le fait que le jeune homme était afghan. Tout en précisant quand même en tout petit caractère qu'il n'était même pas en situation irrégulière. Certains retiendront que les flics ont fait leur boulot. Nous retiendrons, nous dit l'article de Mars Actu, que les flics ont encore tué quelqu'un avec 5 balles parfaitement ajustées, et pas pour le désarmer, mais pour le tuer. Bon alors voilà, je sais que c'est un peu chiant quand je lis longtemps un article, alors je ne vais pas détailler la suite, dont on connaît une partie par ailleurs, hein. Vous voyez l'histoire de la gamine de 5 ans qui a eu un œil crevé par un tir de flashball, c'était le 8 avril. La jeune fille de 19 ans qui a été frappée, insultée, tasée alors qu'elle était sortie acheter des couches pour son bébé. Alors bien sûr le problème c'est qu'elle avait une attestation mais manuscrite parce qu'elle n'avait pas d'imprimante chez elle. Ou peut-être que le vrai problème, c'est plutôt qu'elle était noire et qu'elle habitait dans une cité à Aubervilliers. Mais je vais quand même juste m'attarder sur une histoire encore, quand même, parce que ça, c'est des histoires qui arrivent régulièrement, mais dont la presse parle généralement très 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 peu. C'est les histoires des flics qui gardent leur arme de service quand ils rentrent chez eux et qui sont plus en service, depuis que Manuel Valls, bien sûr, les y a autorisés. C'était censé nous protéger contre le terrorisme. Bah, autant dire que j'ai jamais entendu qu'il y ait eu une seule histoire où ça a permis à des flics d'arrêter un truc terroriste. Par contre, des histoires où les flics ont fini par buter quelqu'un avec cette arme de service, on en a quelques-unes. Alors là, en l'occurrence, il n'y a pas mort d'homme, mais enfin. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les flics, du coup, rentraient chez eux avec leur arme de service, ils pètent les plombs comme n'importe quel beauf à un moment. Là, la différence, c'est qu'ils sont armés. Et donc là, c'était le 15 avril, c'était à Noisy-le-Grand, toujours dans le 93, bien sûr. Donc un flic qui n'est pas en service, incommodé par la musique trop forte du voisin, sort de chez lui pour aller engueuler le voisin. Le voisin, qu'est-ce qu'il fait? Il rigole et il monte le son. Haha, mais il faut pas faire ça à la police! Le flic rentre chez lui, il va chercher son flingue et il retourne pour menacer son voisin. Et donc là, en tout cas, c'est ce que le flic raconte, au moment où il allait reprendre l'ascenseur, le voisin aurait foncé sur lui avec un couteau. Alors là, le flic, ni une ni deux, il sort son flingue et il lui tire dessus, il le blesse au côté droit. Cette fois-ci, il y aura des témoins. Alors peut-être qu'on en saura un peu plus tard. Un autre voisin qui était venu avec le flic pour demander au gars de baisser le son. Et puis indirectement, les autres habitants de l'immeuble qui sont sortis sur leur palier suite à la détonation. En tout cas, le lendemain, le flic, sur Snapchat, met des photos de lui en se vantant d'avoir tiré sur son voisin. Je veux dire, vraiment, le bonne ambiance, quoi. Et malgré ça, le flic alors a été auditionné, ça a quand même duré quelques heures, et puis il a été relâché. Mais attention, hein, en liberté surveillée, cette fois-ci, il n'a même pas le droit de reprendre son flingue. Ouh là 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 là, sévère, sévère. On imagine si c'était un voisin lambda qui était sorti avec un fusil et qui avait flingué son voisin, un voisin flic, alors là, il y a des chances qu'il ne serait pas sorti de son audition en liberté surveillée et qu'il n'en serait pas sorti du tout avant de nombreuses années.
Canu Info du mercredi.
Jean-Paul Benoît Sanchez Matero, je suis régisseur de spectacle, je travaille essentiellement en lumière. Et puis du coup je suis en arrêt de travail forcé par le confinement depuis le 13 mars. Et en confinement depuis le 16.
Alors pour les intermittents, les droits ont été allongés. Est-ce que ça signifie que le régime d'intermittence est protégé?
Les personnes, alors pour faire court, pour ne pas rentrer trop dans le technique, les personnes qui devaient renouveler mars et avril, moi je suis dans ce cas-là. moment-là, on a eu un prolongement de 2 mois. Donc au lieu de faire sur 12 mois notre statut, quoi, notre régime, quoi, nos ouvertures de droits, on passe sur 14 mois. Par contre, pour tous les autres, il n'y a rien du tout de réglé.
Et qu'est-ce que, enfin, ça veut dire qu'après, vous savez pas du tout à quelle sauce vous allez être mangé, puisque ce serait, ça court jusqu'à au moins la fin de l'été, là.
Non, on n'en sait rien, parce que ça court jusqu'au 15 juillet, d'après les annonces présidentielles. Donc, c'est que, en fait, on est complètement dans l'expectative, on sait rien, en fait. Il y a un décret qui est sorti qu'on ne comprend pas. Bon, ça, c'était pour la mise en place d'activités partielles qui commencent à se mettre en place vis-à-vis des employeurs, mais après, sur tout ce qui est la partie chômage, quoi, indemnisation de Pôle emploi, on est au courant de rien du tout. Donc du coup, nous, parce que je fais partie de la coordination intermittent et précaire, ce qu'on exige, en fait, c'est qu'il y ait une année blanche qui soit mise en place, c'est-à-dire que, alors, une année où, suivant la date de reprise de tous les théâtres, quoi, de la culture, en fait, c'est qu'à cette période-là, ben, on remette à plat, en fait, le régime, et que tous ceux qui sont en fin de droit ou qui vont arriver en fin de droit dans l'été ou après, ben, ils soient, se soient suspendus, et puis qu'on voit ça une fois que le spectacle peut reprendre.
Alors, les festivals de l'été ont annoncé leur annulation. Certains, hein, pas tous,
bon,
encore.
Tout ça, parce qu'après le 15 juillet, bon, à part quelques-uns, bah, attendre un petit peu quand même une réponse du ministre de la Culture. C'est ce qu'on exige aussi, c'est que le ministre de la Culture se prononce une bonne fois pour toutes pour la saison d'été. Parce qu'on peut pas dire à des festivals, par exemple, qui seraient le 20 juillet, dire bah, pour l'instant, c'est possible. Donc, c'est-à-dire qu'ils mettent en place leur festival, mais sous quelles conditions? Et puis que le 15 juillet, le président dise ben non, en fait, c'est tout l'été qui est annulé.
Mmh. Oui, oui, c'est pas possible
donc,
d'anticiper.
Fait, voilà, ouais. Pas possible.
Oui, oui. Et donc, les dernières annonces de Franck Riester, le ministre de la Culture, c'est de maintenir les petits festivals, même à partir du 11 mai. Donc, il détaille ce que c'est que les petits festivals, ceux avec une scène, un musicien et 50 personnes sur des chaises avec des masques. Qu'est-ce que t'aurais à répondre à ça?
Je pense que il connaît pas son domaine, qu'il est complètement hors sol et que c'est des gens. On est un peu halluciné par ce genre de mesures, quoi. C'est-à-dire qu'il est jamais allé dans un festival, que ce soit de théâtre ou de musique. Il sait pas comment ça se passe. Se retrouver avec 50 personnes assis sur des chaises avec des masques à 1m50 l'une de l'autre et un musicien sur scène, ça veut dire quoi? En fait, c'est carrément ubuesque, quoi. C'est du grand guignol.
Et comment, dans quelles conditions on pourrait reprendre, par exemple? Parce que lui, ce qu'il voit, c'est le fait que l'économie de la culture, elle en prend un coup. Et qu'est-ce qui serait envisageable?
Ce qui est envisageable, c'est soit on décide, mais pour tous les secteurs, qu'il y a une reprise. Et donc il y a une reprise, donc on repart dans un cours normal, mais on prend ce cas de figure, on protège le plus possible les gens, et donc en fait, on... Après, je suis pas médecin, je suis pas virologue, donc je sais pas comment ça s'évolue, comment ça, quoi, tu vois, on peut pas... Nous, ce qu'on veut, c'est que juste par rapport à la situation, ce soit adapté à la situation qui arrive, quoi. Là, clairement, ce que fait le ministre, c'est pas du tout adapté. Alors, il y a une mesure d'urgence qui a été mise en place, mais évidemment, avec l'activité partielle qui a été étendue, parce que nous, normalement, on a pas le droit au chômage technique, hein, dans l'intermittence, mais là ça a été mis en place pour qu'on puisse y avoir accès, donc pourquoi pas. Après, ça, c'est une mesure d'urgence, voilà, qui peut sauver un petit peu la mise, mais sur du très court terme. Nous, ce qu'on veut, c'est que sur du moyen terme et du long terme, il y a une réflexion de fond et qu'on mette pas le secteur culturel à mal par le biais des intermittents, parce que là, faut savoir que grâce aux intermittents et la flexibilité de travail des intermittents, cela permet avec un intermittent qui travaille d'avoir 8 ou 9 salariés permanents. Donc on est à peu près 120 000 salariés intermittents. Donc voilà, je vais te faire le calcul, ça c'est beaucoup de monde qui dépend de notre flexibilité. Donc c'est toute la culture qui est mise à mal. Et puis à travers aussi ce qu'on... Alors nous, dans le terme de la coordination intermittente précaire, la CIP dont on fait partie dans l'Aveyron, ce qu'on défend aussi, c'est toute l'assurance chômage. C'est-à-dire qu'on revienne sur des protocoles d'assurance chômage antérieurs, qu'on abroge la réforme d'assurance chômage qui doit être mise en place le 1er octobre, qui devait être mise en place le 1er avril, en disant que c'est impossible parce que de mettre ce genre de réforme en place, parce que ça elle durcisse. Mmh. Les conditions d'accès à l'indemnisation chômage. Et nous, on refuse que tout l'ensemble des chômeurs paye le tribut d'un capitalisme délirant et qui nous a amenés justement dans ce genre de crise.
Et est-ce que tu vois le coronavirus un peu comme un catalyseur d'une crise qui est en fait déjà là et qui ne fait qu'aggraver les choses?
Ah ben oui, c'est clair. Parce que de toute façon, à la sortie de la crise sanitaire, on va rentrer dans une crise sociale qui était déjà là, hein, comme tu dis.
Le fait de faire pression pour réouvrir absolument des lieux culturels alors qu'il n'en était pas question il y a quelques jours encore, c'est un peu un sacrifice aussi au profit de l'économie, enfin de l'économie culturelle du coup, mais...
C'est qui tu dis quand tu dis... tu parles de qui ?
Eh ben, Franck Rister, ouais. Tu vois, maintenir les petits festivals même à partir du 11 mai et pas attendre mi-juillet, comme c'était prévu.
Je pense que c'est une stratégie pour pas avoir à dépenser moins d'argent. En gros, ils vont pousser les organisateurs à annuler d'eux-mêmes alors qu'ils pourraient le faire. Et éventuellement, à peut-être ne pas avoir d'aide de l'État. En fait, pour placer aussi dans le contexte économique, culturel, d'avant crise sanitaire, c'était pas folichon parce que organisateur de spectacle, ça demande beaucoup de jonglage vis-à-vis des aides, des subventions, de l'accueil du public, du prix des groupes ou des compagnies. Voilà, comment faire payer pas trop cher un prix d'entrée pardon, au public. Comment amener du public aussi à aller au spectacle, parce qu'on sait qu'il y en a en perte de vitesse là-dessus. Et donc si en plus on impose une jauge à 50 personnes, je vois franchement pas comment ça peut être économiquement viable et qu'un organisateur se dise, quelconque se dise, bah, je vais maintenir mon truc. Donc du coup, ils s'auto-annuleront. Okay. Alors ils ont voté au lendemain de l'annonce présidentielle d'arrêt des festivals jusqu'au 15 juillet, une aide de 22 millions d'euros, mais on sait très bien qu'entre le festival d'Avignon, les Vieilles Charrues, alors je sais plus les quatre qu'il y avait, hein, pour annuler,
le Hellfest,
vont être bouffés là-dedans et qu'il n'y aura rien d'autre pour les autres.
Et du coup, en tant que toi intermittent et d'un point de vue plus de travailleur de métier de la culture, comment tu vois une reprise, enfin, dans quelles conditions tu serais OK pour reprendre et quand, à quel prix, quoi?
Alors moi, du coup, c'est plutôt une position perso parce qu'on n'a pas vraiment encore discuté avec les copains collectifs d'intermittents et tout ça. Mm-hmm. Mais les conditions, c'est que ce soit entre guillemets normal, que les gens viennent pas forcément avec des masques ou quoi. Déjà, j'ai du mal à imaginer si on est encore en crise sanitaire, comment des gens peuvent jouer sur scène parce que avec des masques, c'est pas possible. Et du coup, jouer sans masque avec du public, quoi, je sais pas, c'est proche, quand on est dans un théâtre, c'est quand même proche des uns des autres.
Est-ce que vous voyez des, ou c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais des créations de choses un peu plus petites ou en parallèle des grosses structures existantes pour aussi ça, correspondre aux petites jauges, quoi?
Ce serait difficile à répondre, mais en tout cas, c'est sûr qu'il va falloir remettre à plat le système culturel. Alors, je parle du spectacle vivant, hein, parce qu'après, la culture, c'est très large, mais en tout cas, sur le spectacle vivant, théâtre et musique, c'est sûr qu'il va falloir repenser les choses. Bah, déjà, à mon avis, avant qu'on sorte de cette crise au niveau mondial, c'est pas gagné. Donc, ça veut dire que des festivals qui font venir des groupes étrangers ou des groupes de français ou des compagnies qui partent à l'étranger, je vois. Bon. Après, revenir que sur du local, c'est pas possible, c'est quand même un métier de saltimbanque, quoi. Je veux dire, c'est nomade, quoi. Mm-hmm. Si on peut pas véhiculer ce qu'on a à dire ailleurs, c'est pas jouable non plus.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Alors, encore une fois, il n'y a pas grand-chose dessus. Là, j'ai trouvé ça dans un article de 20 minutes, mais c'est presque la seule source que j'ai trouvée qui raconte précisément ça. Le MEDEF et l'Association française des entreprises privées, l'AFEP, ont plaidé pour un moratoire sur certaines normes environnementales futures en raison de la crise du coronavirus, d'après une source ministérielle qui a parlé à l'AFP. Alors d'après Le Canard Enchaîné, ça serait un courrier qui aurait été envoyé le 3 avril à la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, courrier qui réclame entre autres un moratoire, alors peut-être qu'il serait question de un an, sur les décrets d'application de la loi du 10 février dernier contre le gaspillage et pour l'économie circulaire. Alors, le courrier n'est pas public, hein, ça, du coup on ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. La secrétaire d'État Brune Poirson a quand même confirmé l'existence de ce courrier. Elle dit, il demande un moratoire sur toute la loi anti-gaspillage, mais il y a des mesures applicables dès le 1er janvier 2021. Le mai veut dire, ça va être difficile de changer quelque chose d'ici là, mais bon, peut-être quand même qu'on pourra faire un effort. Le texte en question, c'est notamment la création de nouvelles filières pollueurs-payeurs. C'est l'interdiction pour les grandes surfaces et les plateformes en ligne de détruire les invendus non alimentaires en 2022. Hein, tranquille. Ou la suppression des contenants en plastique dans les fast-foods en 2023. Tranquille. Alors, vous voyez, il n'y a pas exactement de quoi foutre en l'air tout le capitalisme mondial. La fameuse source ministérielle précise, bien sûr qu'on prendra en compte l'implication de cette crise du coronavirus, mais attention, hein, cela ne pourra que être exceptionnel. On ne reviendra pas, non, sur les ambitions du texte. Ouf, le gouvernement ne reculera pas, enfin, ou alors juste un peu, enfin bon, on verra. En tout cas, ils reviendront pas, ça c'est sûr, sur les ambitions du texte. Ça peut quand même toujours vouloir dire que, par contre, ils reviendront sur le texte globalement. Mais l'essentiel, on sait bien, c'est de garder l'ambition. On sait d'ailleurs, quand il s'agit de faire des lois sur des promesses écolo pour dans très longtemps, le gouvernement Macron, alors là, n'a jamais froid aux yeux. C'est juste pour les mesures immédiates que ce même gouvernement Macron, bon, là, il est toujours, c'est vrai, quand même prêt à prendre en compte le fait que c'est compliqué pour les industriels. Alors, hier déjà, un article du Monde nous expliquait que, deux points, ouvrez les guillemets, le patronat veut profiter de la crise sanitaire et économique pour pousser le gouvernement et Bruxelles à revoir leurs réglementations dans plusieurs domaines, comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les avancées sur l'économie circulaire en faveur d'une gestion durable des ressources. Ces règles peuvent, selon l'AFEP, donc toujours l'Association française des entreprises privées, ces règles peuvent donc représenter un frein pour sortir de la crise économique. Eh ben oui, notamment en mobilisant des ressources importantes au sein des entreprises qu'il faudrait utiliser autrement. Bon, en fin de semaine dernière, des ONG environnementales, la bande à Oxfam, les Amis de la Terre, etc., s'inquiétaient du projet de loi de finances rectificatives pour 2020, le PLFR, projet de loi de finances rectificatives. Dans ce projet de loi, on trouve entre autres une vingtaine de milliards en aide financière, c'est-à-dire en gros chèques, hein, pour certaines entreprises opérant dans des secteurs stratégiques et qui se trouvent dans une situation critique. Ces entreprises, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Air France et Renault, ou des trucs comme ça. Mais essentiellement Air France et Renault. Autant dire les entreprises françaises qui font le max de pollution. Tiens, vas-y, prends 20 milliards et va t'acheter du carbone. C'est ça un peu l'idée. Mais alors attention, c'est quand même un gouvernement qui l'écologie tient à cœur. Parce que Bruno Le Maire nous l'a bien dit, bon, il l'a dit quand il s'est fait engueuler sur vous financez les pollueurs, tout ça. Il a dit, oh là, non, on exigera une politique environnementale ambitieuse. Il faut que ces grandes entreprises s'engagent totalement pour une économie décarbonée. Ça vaut pour les entreprises de transport, en particulier le transport aérien. Et bien, dites donc. Alors, quand même, on comprend bien que aucune garantie de rien du tout sera demandée à ces entreprises. En gros, c'est prenez la thune et après, s'il vous plaît, allez, s'il vous plaît, si vous pouviez penser un peu à la planète. Peut-être planter un arbre à chaque fois que vous construisez un avion, hein, par exemple. Ben voilà, ben une chose est sûre avec ce virus, c'est que tout le monde y voit une occasion d'avancer ses pions. Alors par exemple, pour moi, l'évidence, ça pourrait être que c'est l'occasion de remettre en cause tout un mode de vie occidental ultra polluant. Ça pourrait être aussi de capter que notre fonctionnement avec le virus pendant les mois de janvier et février, vous savez, ça a été de regarder le truc de loin en se disant « Oh là là, faudrait faire gaffe quand même », et en prenant aucune mesure, je veux dire, ni moi en réalité, mais ni le gouvernement, jusqu'à ce que, bim, ça nous tombe sur la gueule. Et de voir que, en fait, c'est exactement le même processus psychologique collectif qui se met en place avec le changement climatique. Oh là là, faudrait faire quelque chose bientôt, hein. Oh là, ce serait quand même important, hein. Enfin bon, on verra un de ces jours. Et puis quand ça arrive, tiens, finalement, on n'a rien fait. On n'a pas commandé de masque d'un côté, on n'a pas fait grand-chose pour diminuer les gaz à effet de serre d'un autre côté. C'est, pour moi, par exemple, ça serait ça l'évidence. Mais pour d'autres qui sont placés ailleurs dans le fonctionnement du capitalisme, l'évidence, eh ben, c'est plutôt que c'est le moment de chougner, que les entreprises, ça va, elles vont avoir bien du mal, ça va être difficile, et donc il faut leur enlever tout ce qui les gêne encore un peu. Ouh, les normes environnementales, vous savez, ça nous rend pas les choses faciles, et puis les 35 heures, et puis les congés payés, et puis tout ça. Alors, à votre avis, si on laisse faire le gouvernement, à laquelle de ces deux évidences va-t-il se ranger ?
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Est-ce que tu peux commencer par te présenter?
Moi, je travaille dans une usine agroalimentaire dans le nord de la France, en Picardie. C'est un grand groupe, ça va être 200-300 salariés.
Ok, et donc toi, tu taffes encore parce que l'entreprise pour laquelle tu bosses, c'est considéré comme un travail nécessaire. Et est-ce que du coup, il y a eu des aménagements?
Ouais. Il y a eu les aménagements, en fait, ça s'est fait vraiment progressivement. Donc au début, c'était vraiment les gestes barrières avec des affiches partout. Comme c'est de l'agroalimentaire de base, on a déjà pas mal de robinets avec des points de savon et des points de solution hydroalcoolique. On marquait les distances sociales par du scotch, genre au niveau de la pointeuse, au niveau de la machine à café, avec aussi les chefs qui passent régulièrement sur la production, quoi, pour nous rappeler les distances sociales à maintenir, sachant que c'est très compliqué. En vrai, avec le bruit, le besoin de communiquer entre collègues, parce qu'on travaille en équipe et on règle des paramètres entre collègues, donc la communication, elle est indispensable. Avec le bruit des machines et tout, c'est quasi impossible de respecter les distances sociales, quoi.
Ouais.
Comme on les appelle. Alors les masques, les gens qui reviennent, les du nouveau, en fait. Depuis que il y a beaucoup de gens qui sont revenus de maladie là. Des 21 jours, eux, c'est port obligatoire du masque. Et les autres employés, comme moi, par exemple, on vient me demander si je veux des masques. Je signe un papier et j'en ai deux masques pour 8 heures de travail. Ce sont des masques chirurgicaux.
Ok, vous avez ça depuis longtemps?
Ça doit faire 2 semaines.
D'accord. Et est-ce que tu sais si dans ton usine, il y a des gens qui ont attrapé le coronavirus et qui, par exemple, sont absents pour cette raison?
D'avéré, moi, je connais une personne qui a été absente pour coronavirus. Et après, l'information sur qui est malade et tout, franchement, elle filtre pas. Ou alors, c'est parce qu'un collègue connaît un autre collègue qui a dit que l'usine ne communique pas là-dessus. En tout cas, elle a été au courant d'un collègue qui a été mis sous assistance respiratoire il y a 2 semaines maintenant. Et je sais toujours pas, lui, où il en est aujourd'hui, quoi.
Mais toi, tu constates plus d'absentéisme que d'habitude?
Carrément, ouais. Je pense que c'était avait plusieurs raisons. Il y avait du préventif des gens qui se sont mis en arrêt parce que ils ont un entourage, des enfants qui pouvaient pas faire garder par exemple ou même la peur de ramener le coronavirus chez eux, quoi.
Ouais.
Ils se sont mis en arrêt. Il y a ceux qui se sont mis en arrêt aussi parce qu'ils étaient diabétiques ou parce qu'ils étaient, je sais pas moi, insuffisants respiratoires ou asthmatiques, diabétiques, tous ceux qui ont des problèmes de santé, pardon. Ils se sont mis en arrêt ou l'entreprise est venue les voir pour leur demander de se mettre en arrêt. Sinon, pas beaucoup d'intérim pour les remplacer. Depuis 3-4 jours maximum, là, ça y est, ça revient. Les arrêts de 21 jours sont terminés et apparemment, les gens ne les prolongent pas. Ou ils ne sont pas prolongés, mais...
Est-ce que toi, en tant qu'intérimaire, c'est quelque chose auquel t'as accès, le chômage partiel ou le droit de retrait?
Le droit de retrait, ça m'est possible. Après, théoriquement, moi, en fait, en tant qu'intérimaire, moi, j'ai des contrats la semaine et je sais tous les vendredis si je vais être pris la semaine d'après et pour combien de jours et à quel rythme de travail. Ça fait que tu peux pas te mettre en chômage partiel, par exemple, ou en arrêt maladie, puisque ton contrat est court que sur une semaine. Donc, au pire, tu seras en arrêt pendant une semaine et après, ton contrat est terminé. Moi, par exemple, j'ai plus le droit au chômage. Du coup, aujourd'hui, je peux pas. Je suis obligé d'aller travailler. Je suis obligé de faire profil bas aussi quand je passe la grille, parce que si toutes les conditions de sécurité n'étaient pas mises à disposition pour moi et que je serais dans mon bon droit d'exercer mon droit de retrait, le droit de retrait, c'est un rapport de force, en fait. Et si je le fais tout seul dans mon usine, en tant qu'intérimaire, il y a tellement de monde qui attend derrière. Le vendredi, j'ai un message qui me dit que je ne serai pas pris la semaine d'après, en fait, quoi.
Et en parlant de ça, du coup, c'est quoi l'ambiance en ce moment à l'usine?
Il y en a eu plusieurs, en fait, d'ambiance, on va dire. C'était vraiment au début, stress, vraiment une tension hyper palpable, même entre les collègues, une peur même de venir au travail, avec un fatalisme, quoi. Ah, on va crever au boulot, voilà. Bon, bref, c'était vraiment assez pesant, le fait de venir travailler, c'était inquiétant. Hein. Et puis aussi, la peur de choper le coronavirus, quoi, tout au début. Puis après, en fait, au fur et à mesure, et je sais pas si c'est bien, mais le fait de venir travailler tous les jours avec 200 personnes qui t'entourent et tout, cette peur, elle diminue, je pense, de fait, parce que tu la côtoies tout le temps. Les gestes ont changé dans notre quotidien avec les collègues et tout. On est moins proches, il y a moins de discussions, il y a moins de communication. Ça change les choses, quoi. Parce que en termes de proximité, de rapports sociaux, avec des collègues, des fois, on est habitué à boire un petit coup à l'extérieur ou des choses comme ça. Tout ça, ça te supprime. Du coup, ça fait aussi que tu n'as que tes moments de travail. Et du coup, c'est quand même pesant, quoi. Il y a l'environnement, que ça peut être une usine, le bruit et tout ce que ça implique. T'es obligé de hurler entre collègues.
Est-ce que les syndicats ont essayé de démarcher des choses dans l'usine?
Les syndicats, d'après ce que j'ai compris, de présent, il y a FO et la CGT. Il n'y a rien. Le seul, j'ai vu un mot de la CGT qui disait qu'il fallait être responsable de sa sécurité et que du coup, on pouvait exercer son droit de retrait.
Ouais.
Sinon, on a eu, il y avait une petite note d'FO aussi qui disait que vu les vols qu'il y avait dans l'usine de solutions hydroalcooliques et tout, qu'on pouvait se faire fouiller nos sacs à la sortie. Ils nous disaient pas qu'ils étaient là si jamais on voulait refuser et qu'ils nous soutiendraient en cas de litige ou de je ne sais quoi, ou ils nous donnent même pas un texte de loi pour nous dire au fait, les gars, vous avez le droit de refuser de vous faire fouiller votre sac selon tel article ou je ne sais quoi, hein, si c'était tel est le cas.
Et est-ce que tu sais si t'es concerné par la prime de 1000 euros qui est censée être adressée aux personnes qui travaillent pendant la crise sanitaire?
On se demande si elle existe vraiment, en fait, la prime. Bah, on n'arrête pas d'en entendre parler. On a l'impression que c'est la carotte et le bâton, la prime, là. C'est, pour l'instant, on vous donne pas une réponse. C'est des accords, vous savez, là. On a des pontes qui réfléchissent à tout ça. Ils mettent ça en place. Voilà, mais merci de venir travailler, hein, mais voilà. Du coup, pour l'instant, la prime, on peut y prétendre. Apparemment, on va en avoir une partie. Combien, quand, comment c'est encadré, quoi. De quelle date à quelle date, on n'en sait rien. Franchement, on n'en sait rien du tout.
On voit quand même l'idée de faire une prime à la journée, ce qui est quand même complètement différent d'une prime pour le mois ou pour la période.
Tu prends des gens qui sont, par exemple, personnes diabétiques, les asthmatiques, tous les gens avec des problèmes de santé qui sont pas venus 21 jours bosser, par exemple. Bah, si tu comptes, je dis n'importe quoi, moi, 30 balles par jour à 20 jours, c'est 600 euros de prime que t'as pas. Puis en plus de ça, dans une usine, il va y avoir, comme moi, par exemple, il va y avoir des intérimaires. Mon patron, à moi, en vrai, c'est pas l'usine pour laquelle je travaille, c'est une boîte d'intérim. En fait, il y a au moins 4 employeurs différents dans son entreprise, minimum, tu vois, minimum, entre les boîtes d'intérim, les boîtes de maintenance, les boîtes de ménage, les boîtes de remplacement de machines à café. Du coup, tous ces gens-là qui viennent bosser au jour le jour, on n'est pas forcément sous le même régime, on n'a pas le même patron. Par exemple, nous, la boîte pour laquelle on bosse, on parle, qui vont filer 1000 euros. Nous, les intérimaires, on parle qu'ils vont nous filer un peu plus de 30 euros par jour, ou des fois, on parle qu'on va nous filer 1000 euros aux intérimaires, et aux femmes de ménage et tous les autres, on ne sait pas ce que leur patron, et eux non plus, ils ne savent pas ce que leurs patrons vont faire avec eux. Il peut y avoir ce truc-là aussi, de diviser les gens, alors que c'est dans le même lieu, sur le même site.
Est-ce que toi, aujourd'hui, tu préférerais ne pas travailler ou tu es satisfait de travailler?
Si je pouvais ne pas travailler, ça m'arrangerait. J'ai peur, par exemple, pour moi, par exemple, de me dire, moi, ça y est, j'ai pris le cap, j'ai pris le truc, de me dire, ok, je vais bosser, je me suis dans ma tête, c'est bon. Sauf que je me dis, mais en fait, là, je vais continuer à bosser, je vais continuer à prendre des risques. Et mes parents, par exemple, moi, ça me fait peur pour les gens qui m'entourent, de me dire que moi, pendant tout ce temps-là, j'ai été exposé, tout ça. Ça me fait flipper, par contre. Sur le reste, en fait, j'ai pas le choix d'aller bosser. La question, elle se pose même pas. J'ai plus de salaire, j'ai pas le droit au RSA. J'ai le droit à rien, en fait. Moi, j'ai trouvé ce travail-là un mois avant que le coronavirus commence. Et quand le coronavirus a commencé, j'avais peur que mon usine ferme. C'était paradoxal parce que d'un côté, j'avais peur d'y aller, mais je me disais, il faut absolument pas que ça ferme. Sinon, j'ai plus de quoi nourrir, j'ai plus de quoi remplir mon frigo, j'ai plus de quoi faire, quoi. J'ai plus rien. Je suis obligé d'aller bosser. Mais dans l'idée, non, j'ai pas du tout envie d'y aller. Déjà, d'aller à l'usine, c'est pas super réjouissant. Mais alors, en plus, dans ces conditions-là, ça l'est encore moins, quoi. Et j'ai peur que derrière, après ce que j'ai compris, on va prendre cher derrière, quoi. Je suis obligé, quoi.
Ok, donc ouais, de toute façon, toi, t'as pas le choix.
Et je suis pas le seul à l'usine à être comme ça. Ce matin, mon beau-père, il m'a appelé pour me demander s'il pensait qu'il pouvait rentrer dans l'usine. Il a 53 ans, il a un bac plus 5 dans le social. C'est comme il trouve rien et qu'il a plus de thunes. Ses droits au chômage, ils vont s'arrêter. Ben, il me disait, est-ce que tu penses que je peux trouver une place dans ton usine, quoi?
Bon, ouais, merci beaucoup.
Ouais, de rien.
Canu Info. Du mercredi.
Attention, vous êtes prêts?
Et maintenant, en direct et en mégahertz, Bonsoir.
Bonsoir. Paraîtrait qu'en ce moment, même si on prépare des gâteaux, on est de plus en plus morose et y a pas de joie dans les ghettos. Mon beauf. Ah non, merde, c'est pas celle-là. Eh oui, à part les rares personnes coincées dans des châteaux qui se prélassent sur des transats en buvant du champagne avant de plonger dans leur piscine remplie de masques FFP2, les autres en chient. Les trois lignes dont parlait Macron. La première, qui risque sa vie en allant bosser. La deuxième, qui essaye de survivre sans toujours y arriver à l'hôpital. Et la troisième, qui tabasse les gosses parce qu'ils se sont encore amusés à balancer de la farine sur les murs pour repeindre l'appartement. Sans compter qu'on vient d'apprendre que la fête de la bière est annulée. Aïe, c'est dur. Mais, comme moi je suis au top, puisque j'ai eu l'idée lumineuse de taper sur Google « Comment devenir agoraphobe », j'ai décidé de vous offrir gratuitement un peu de gaieté. Je vais vous parler de morts, de décédés, de canés, de crevés, de gens qui ont éteint la lumière du plafonnier ou qui se sont fait victimiser. D'abord à Béziers, jolie petite ville de France où l'électeur majoritaire est visiblement cinéphile et nostalgique des costumes de la Grande Vadrouille. Là-bas, la police municipale a apparemment bien compris les directives du Führer, du maire. Il faut respecter l'abruti malicieusement. Enfin, il faut respecter le confinement. C'est ainsi que deux policiers municipaux, lâchés dans les rues de la ville, tels des chiens dans une chasse à cour, ont interpellé ce dimanche un homme de 34 ans qui décédera dès son arrivée au commissariat. Un martyr de plus, assassiné par la police en France. En ces temps troublés, la mort par détresse respiratoire n'est pas seulement due à un ennemi invisible qui n'a pas de passeport. Elle est aussi le fait d'hommes bien visibles, habillés en bleu et avec un passeport français. En lisant le journal, on en apprend un peu plus sur la situation de l'homme et la raison de son interpellation. Je vous livre tel quel les détails rapportés par les médias. L'homme, un SDF de 34 ans, a été interpellé pour non-respect du confinement. Et là, je me permets de répéter, l'homme, un SDF de 34 ans, a été interpellé pour non-respect du confinement. Triste ironie. Comme pour Liliane Garcia, qui a fait les valises pour son dernier voyage, et à qui je voulais rendre un dernier hommage. Une grande partie de sa vie passée à la Fédération Métallurgie de la CGT, elle était devenue la femme de Georges Marchais. Elle avait connu la célébrité populaire, lorsque son mari s'était énervé sur un plateau de télé en racontant comment il avait réagi à l'information de la trahison de Mitterrand alors qu'ils étaient en voyage en Corse. Passablement énervé, il s'était lancé dans une tirade devenue historique et qui se terminait ainsi. J'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche. Liliane, fais tes valises, rentre à Paris. Le corona choisit décidément bien mal ses proies. Alors que Boris Johnson court toujours, l'écrivain chilien d'extrême-gauche Luis Sepúlveda a été stoppé net dans sa course aux côtés de celles et ceux qui luttent pour un monde meilleur. Après des années de prison au Chili et sa participation à la guérilla sandiniste du Nicaragua, il était devenu écrivain et s'était installé en Espagne. Parmi ses nouvelles et romans, comme « Le vieux qui lisait des romans d'amour » ou « Le nom d'un torero », mon préféré restera l'ombre de ce que nous avons été. Dans ce livre, il raconte comment, dans le Chili d'aujourd'hui, un vieil anarchiste motive un groupe de vieux communistes pour faire un dernier coup. Il y relate au début le premier braquage de banque qu'ait connu le Chili. Après que l'anarchiste espagnol Durruti et sa bande soient repartis avec l'argent des coffres, les clients présents à ce moment-là décrivent les braqueurs comme ayant l'air largement plus honnêtes que les dirigeants de la banque. Voilà, bon vent camarade, on ne t'oubliera pas, et grâce à tes livres, tu seras toujours là. Pour en finir, revenons maintenant du côté de la Tour Eiffel et du gouvernement Macron. C'est vrai que passer d'un coup comme ça à un symbole de la France et au président de la République, ça fait bizarre. C'est comme qui dirait, passer du coq à l'âne. Eh oui, la France est bien décidée à ne pas se laisser faire et surtout à ne pas se laisser critiquer. Apparemment vexé par les critiques d'Emmanuel Macron sur le comptage des morts du coronavirus en Chine, l'ambassadeur chinois en France s'est permis de remettre en cause la manière dont la France gérait l'épidémie notamment dans les EHPAD, et de rappeler au passage que le gouvernement qualifiait le Covid-19 de « grippette » au début de l'épidémie. Là, le sang du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian n'a fait qu'un tour, et il a, cette fois-ci, réellement tapé du poing sur la table. C'est pas souvent qu'on entend parler de celui-ci, mais quand il se passe quelque chose de grave, il est là. Bon, il avait pas dit grand-chose quand les Kurdes dont la France s'était servie de chair à canon contre Daesh se faisaient massacrer par la Turquie. Mais là, c'est grave. C'est vrai que ça se fait pas. Tout comme on ne parle pas à un ado de sa vilaine peau, ou on ne fait pas remarquer au prince Charles que ses oreilles sont en train de partir sans lui. Le ministre des Affaires étrangères a donc précisé à la Chine qu'elle entendait se faire respecter. Ce à quoi Pékin, qui s'est dit que ça valait pas le coup, a immédiatement répondu que c'était un malentendu et qu'elle parlait en réalité de l'Espagne. C'est un peu comme quand tu rentres d'une manif en continuant à fredonner et tout le monde déteste la police, alors qu'une voiture de la BAC s'arrête à ta hauteur en te disant « Pardon, monsieur ?» Là aussi, tu te dis que ça vaut pas le coup. « Tout le monde, oui, mais pas moi !» Bref, tout ça pour dire que les dirigeants de tous les pays sont des gamins. Et là, va arriver l'heure de les mettre au lit.
Canu Info.
Pour faire cet article, je me suis largement inspiré d'un article de Bastamag et de Reporter. Contrairement à la France, l'Espagne a annoncé des mesures sur les loyers, pas seulement pour les entreprises mais également pour les particuliers. Seulement voilà, dans la loi adoptée le 1er avril, deux mesures principales ressortent. La suspension des expulsions et un moratoire, voire une baisse des loyers. Avec un moratoire, le gouvernement prend donc le risque d'endetter encore plus les foyers les plus pauvres. Voilà comment fonctionnera le dispositif. Alors, il sera d'abord ajustable en fonction de la situation du propriétaire. S'il possède plus de 10 immeubles ou plus de 1500 m², là, une baisse de 50% du loyer ou un moratoire sur 4 mois sera possible. Pour les autres, jusqu'à 9 immeubles ou moins de 1500 m², les locataires devront trouver un arrangement avec leur proprio et s'ils sont dans l'impasse, le locataire pourra souscrire à un microcrédit pour couvrir jusqu'à 6 mois de loyer à rembourser dans les 6 ans et pour l'instant, on ignore le taux d'intérêt. Bon, sauf que ça risque d'ajouter de l'endettement à des personnes qui sont déjà limites et qui, là, ne touchent plus de salaire et qui ne sont plus sûrs non plus de retrouver leur job à la sortie du confinement. C'est ce que dénonce un collectif composé de 200 associations et syndicats qui appellent à la grève des loyers. L'équation est simple pour eux. Qui n'est pas rémunéré ne paye pas. Si l'économie productive s'arrête, l'économie rentière aussi. C'est clair qu'on a du mal à imaginer que ceux qui ont encaissé des loyers sans cesse continuent à toucher le pognon qu'une bonne partie de la population se retrouvant dans la dèche n'a plus. En Espagne, le contexte immobilier est particulièrement tendu. La hausse des prix, encouragée par le tourisme, a grimpé en moyenne de plus de 50% en 5 ans. Une famille consacre plus de 30% de son budget pour son propriétaire. Dans les grandes villes, cela monte jusqu'à 50%. Sachant qu'en Espagne, sur le marché de la location en 2018, 27,8% des locataires étaient au chômage et 37,3% avaient des contrats temporaires. En plus de la suspension des loyers, ils réclament le remboursement d'emprunts pour les résidences principales et pour les locaux des petits commerces, la suspension du paiement de fournisseurs d'eau, de gaz, d'électricité, ainsi que la réquisition de logements vides pour les 35 000 personnes sans abri. Pour le porte-parole du syndicat des locataires de Madrid qui appelle à la grève des loyers, grève ou pas, de toute façon, une partie des gens devra choisir entre payer son loyer ou bouffer. D'un point de vue purement juridique, rien ne couvre une grève des loyers bien sûr. Leur but, c'est de ne pas se retrouver seul face à un impayé, de transformer ça en une espèce de force collective. Je le cite, « S'il y a une pénurie de recours juridiques contre les impayés, le système juridique va rapidement se retrouver saturé. Ils ne pourront pas expulser tout le monde. En temps normal, dans tous les États, il y a pratiquement une centaine d'expulsions chaque jour. Cela implique des moyens juridiques et policiers qu'ils ne pourront pas déployer si nous sommes très nombreux. Par contre, si nous affrontons cette situation de manière individuelle et isolée, nous serons plus pauvres, plus endettés et plus vulnérables. À cette occasion, une caisse de solidarité a été mise en place pour payer les frais de justice des locataires. Elle a déjà récolté 35 000 euros. Et c'est peu dire que l'appel a eu un bon écho. En l'espace de quelques jours, 15 000 personnes se sont déclarées en grève de loyer. Certaines d'entre elles ont déjà obtenu une annulation de loyer après avoir simplement informé leur bailleur. La situation pourrait être la même dans d'autres pays, comme en Angleterre ou aux États-Unis par exemple, où un locataire sur trois n'a pas payé son loyer pour le mois d'avril. Dans tous ces pays, un même son de cloche, un même souvenir, 2018. De l'argent public était injecté de toutes parts pour sauver les grandes entreprises et les banques. En Espagne, le sauvetage des banques a coûté 65 milliards d'euros aux contribuables. Il apparaît urgent de les faire passer à la caisse.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Quelques brèves des frontières. Commençons par l'Italie. Le camp de transit de Ventimille, situé dans la vallée de la Roya, a été placé en quarantaine après qu'une personne ait été détectée positive au Covid-19. Les quelques 200 personnes qui y vivent avaient déjà vu leurs allées et venues drastiquement réduites mi-février. Au départ, ce camp fonctionne de manière assez singulière. Il est libre d'accès et sans condition de durée. Les personnes qui sont là normalement en transit vers d'autres pays. Aujourd'hui, avec les contrôles renforcés aux frontières et dans les gares, les gens ne peuvent plus vraiment passer. Toujours en Italie, les 180 personnes secourues par l'Aïta Mari et l'Alan Kurdi ont été placées en quarantaine sur un ferry amarré en face du port de Palerme en Sicile. Le ferry dispose de 1471 places avec la Croix-Rouge à son bord. Une question se pose alors, serait-ce le devenir des futurs sauvetages ? On le saura sûrement dans les prochaines semaines. En Grèce, cette fois-ci, un hôtel hébergeant 470 demandeurs d'asile dans le sud de la Grèce a été placé en quarantaine après que 150 personnes aient été testées positives au coronavirus. Les autorités rassurent la population, je les cite, la police est stationnée devant l'hôtel et personne n'est autorisé à sortir. En Méditerranée cette fois, la semaine dernière, une embarcation s'est retrouvée à la dérive pendant plusieurs jours dans la zone de recherche et de sauvetage maltaise sans que le gouvernement maltais ne procède au sauvetage. C'est un navire marchand qui a secouru les personnes présentes sur le navire avant de les remettre aux gardes-côtes libyens qui, eux, les ont ramenés à Tripoli. Durant ces jours d'errance, l'ONG Alarm Phone a dénombré 12 personnes mortes de soif ou noyées. Suite à cela, des ONG ont décidé de poursuivre en justice les autorités maltaises pour ne pas avoir secouru les personnes alors même qu'elles se trouvaient dans leurs eaux territoriales. Du côté du Premier ministre, cela n'étonnera personne, il déclare avoir la conscience tranquille. On imagine effectivement qu'il n'aura pas de mal à trouver le sommeil. Le HCR a lui déclaré « des zones grises demeurent sur ce qui s'est passé exactement, mais à coup sûr des vies auraient pu être sauvées. Le sauvetage n'aurait pas dû être retardé, ceux qui ont été secourus n'auraient pas dû être envoyés en Libye, et ils doivent désormais être protégés du risque de risques graves pour leur vie. » Le quotidien maltais Times of Malta estime que Malte, je cite, « a du sang sur les mains ». Les autorités maltaises se sont volontairement retenues de déployer un bateau de patrouille malgré le fait que des cadavres étaient à bord et que les migrants atteignaient les côtes maltaises. Et pour finir, on va faire un tour en France avec le défenseur des droits qui réclame la fermeture des centres de rétention. Alors à plusieurs reprises, le défenseur des droits réclamait la fermeture des centres de rétention en France. Le 27 mars, le Conseil d'État a rejeté sa demande car il jugeait que les centres n'étaient pas un facteur d'évolution de l'épidémie, notamment parce que les nouveaux placements en rétention devaient devenir marginaux et que la carence dans l'accès aux soins ou la mise à disposition de produits d'hygiène n'était pas avérée. Samedi, Jacques Toubon a montré que non seulement les placements se sont poursuivis, je cite, dans des proportions non marginales, mais, je recite, la situation sanitaire n'a cessé de se dégrader et plusieurs étrangers et personnels du centre de rétention de Paris, dans le bois de Vincennes, ont été testés positifs au Covid-19. Le tribunal de Paris a d'ailleurs ordonné que plus aucun nouveau placement se fasse dans ce centre. Alors pour le défenseur des droits, le risque de contamination est donc indéniable et porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie et à la protection de la santé alors même qu'il n'existe pratiquement aucune perspective d'éloignement à bref délai. Il réclame donc la fermeture des centres de rétention administratifs ou à défaut l'arrêt immédiat des placements en rétention. On le redit, son avis est purement consultatif.
Radio Canu.
C'était Canu Info, c'était Canu Info, c'était Canu Info du mercredi. C'était Canu Info, c'était Canu Info, c'était Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
La plus rebelle des radios.